Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur Radio Orient. Il est 13h, votre rendez-vous d'information avec Nawel El Amouchi. Au sommaire de cette édition, avec les violents orages hier soir sur une partie du pays, une femme a été tuée par la chute d'un arbre en Haute-Vienne et un homme dans l'incendie d'un atelier provoqué par la foudre en Isère. Météo France a levé ce matin l'alerte orange aux orages qui concernait 30 départements, mais plus de la moitié de la France reste en alerte jaune en raison du risque de fortes pluies et d'éclairs. Et au Moyen-Orient, les États-Unis ont bombardé l'Iran pour la 6e nuit consécutive. Téhéran riposte en ciblant les pays alliés de Washington. Nous l'avons évoqué dans les titres dans l'actualité. Au Moyen-Orient d'abord, les États-Unis ont bombardé l'Iran pour la 6e nuit consécutive et Téhéran les a accusés d'avoir fait des victimes en visant des infrastructures civiles, tandis que plusieurs pays alliés de Washington au Moyen-Orient ont dit avoir été ciblés par des attaques. 8 personnes ont été tuées et 20 autres blessées dans des frappes américaines selon un média d'État iranien. Et le ministère iranien de la Santé affirme que 38 personnes ont été tuées et plus de 400 ont été blessés dans des frappes américaines sur l'Iran depuis le 22 juin dernier. Et les gardiens de la révolution iraniens ont affirmé aujourd'hui avoir visé des systèmes radars et des avions militaires américains au Qatar en représailles à ces frappes américaines menées dans la nuit. Et conséquence de l'intensification du conflit, les cours du pétrole montent ce vendredi. En France, hier soir, une partie du pays était en vigilance orange pour de violents orages. Une femme a été tuée par la chute d'un arbre en Haute-Vienne et un homme dans l'incendie d'un atelier provoqué par la foudre en Isère. Météo France a levé ce matin l'alerte orange aux orages qui concernait 30 départements hier, mais plus de la moitié de la France reste en alerte jaune en raison du risque de fortes pluies et d'éclairs. Après plus de 6 heures de discussion, hier, 14 députés et sénateurs ont trouvé un compromis sur la très contestée loi d'urgence agricole. Et pourtant, ce texte qui s'inscrit dans les projets du gouvernement depuis quelques mois divise l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Malgré ce compromis, Sébastien Lecornu craint le rejet du texte. Clara Dubanchet.
Effectivement, Nawel, ce consensus entre députés et sénateurs n'a pas apaisé les critiques, loin de là. Le chef du gouvernement a d'ailleurs demandé à ses ministres concernés par le projet de loi de consulter les groupes politiques de l'Assemblée pour recueillir analyses et positions en vue de l'ultime vote lundi soir.
Et pourquoi cette proposition de loi est-elle autant contestée ?
Ce projet de loi a pour but de créer un label pour renforcer la souveraineté alimentaire française. Donc ce sont surtout deux mesures au sein de cette loi qui divisent. D'un côté, le texte prévoit d'autoriser l'agence sanitaire ANSES de réintroduire deux insecticides interdits en France, mais autorisés en Europe. Ces pesticides, l'acétamipride et le flupyradifurone, pourraient être utilisés dans certaines filières en difficulté, comme le secteur de la noisette pour l'un et les betteraves et les pommes pour l'autre. Si la gauche est hostile à la mesure, le bloc central, lui, reste fracturé sur la question et ne s'est pas encore prononcé sur leur vote final.
Et cette seconde mesure est largement critiquée.
La seconde mesure touche au nerf de la guerre en cette période de sécheresse, l'eau, sa gestion et sa gouvernance. Le texte a déjà été remanié au Sénat où des concessions ont déjà été faites, mais les mesures qui inquiètent la gauche sont toujours présentes. D'abord la refonte de la gouvernance de l'eau qui renforce le poids des agriculteurs dans les décisions, mais aussi le doublement d'ici à 2035 de la capacité de stockage de l'eau à des fins agricoles qui pourrait notamment favoriser le développement des méga-bassines. Un compromis parlementaire a été donc largement soutenu par le Rassemblement national, en passant par la droite et par des partis centristes frileux, et où la gauche minoritaire aura été la seule à s'opposer franchement.
Merci Clara Dubanchet pour toutes ces précisions. Et on a demandé son avis sur cette loi d'urgence agricole, vous l'avez compris, assez controversée, à Pascal Lerousseau, éleveur et président de la Chambre d'agriculture de la Creuse.
Ça va dans le bon sens, je pense qu'on n'a peut-être pas été assez loin et que je regrette toujours de voir les députés qui, dans leur circonscription, disent qu'ils aiment bien les agriculteurs et qu'ensuite, quand ils peuvent justement voter une loi pour les agriculteurs, et bien, ils essayent de passer des amendements, ils essayent de retarder et ils ne votent pas forcément comme il faut.
Est-ce que vous comprenez les réticences, hein, les oppositions à cette loi, notamment formulées par la gauche, par les écologistes? Je rappelle que cette loi donc vise à notamment à réintroduire sur dérogation certains pesticides interdits en France, comme l'acétamipride par exemple, malgré les risques qu'il présente pour la santé. Comment vous vous positionnez par rapport à ça?
Je pense sincèrement que c'est plutôt de l'idéologie et du dogmatisme. Parce que la situation est très claire. Soit en France, on a le droit d'employer les mêmes produits que dans les autres pays européens, et dans ce cas-là, on peut parler de qualité européenne. Soit qu'on va au-delà, et dans ce cas-là, il ne faut pas faire entrer des produits où on a employé ces produits dessus. C'est-à-dire, si nous, on n'a pas les mêmes armes que les autres, après, je peux comprendre, vouloir ouvrir le parapluie, mais dans ce cas-là, il ne faut pas faire entrer des produits, il faut contrôler tous les produits qui rentrent. Et il ne faut surtout pas qu'on puisse avoir des fruits, des légumes qui viennent d'autres pays, que ce soit l'Espagne, d'autres pays européens, Espagne, l'Allemagne, ou même beaucoup plus loin, et qui ont utilisé ces produits, ou même d'autres produits qui sont interdits en France depuis 50 ans. Hein. Vous prenez l'atrazine, c'était un désherbant, depuis 50 ans il est interdit en France, et dans d'autres pays, là pour le coup c'est pas les pays européens, mais c'est des pays plus lointains, qui l'emploient et qui nous envoient ensuite des produits qui ont été désherbés avec de l'atrazine.
Pascal Lerousseau, éleveur et président de la Chambre d'agriculture de la Creuse, au micro de Thibaut Richard. Il n'y a pas de risque de réactivation de feu aux abords de l'autoroute A6 qui a réouvert hier soir après 4 jours de fermeture à la suite de l'incendie qui a ravagé 2000 hectares de la forêt de Fontainebleau, selon les sapeurs-pompiers de Seine-et-Marne. Un homme de 46 ans a été interpellé mardi soir sur un parking de Fontainebleau et placé en garde à vue dans le cadre de l'enquête sur les incendies. Il est ressorti libre faute d'éléments probants, selon la procureure. Dans l'affaire Jubilard, les gendarmes ont repris les fouilles dans le Tarn, à l'endroit où Cédric Jubilard affirme avoir enterré son épouse Delphine, après avoir retrouvé hier des ossements d'une partie d'un corps appartenant probablement à l'infirmière disparue fin 2020. Je vous laisse écouter à ce sujet le lieutenant-colonel Stéphane Meblum qui s'est exprimé ce matin.
Les éléments pertinents récupérés sur le terrain ont été envoyés par hélicoptère directement à l'IRCGN. Donc l'analyse va débuter dans l'après-midi et puis les résultats tomberont dans un délai relativement court. En tout cas, le dispositif pour l'instant est maintenu, les recherches perdurent. On finalise le traitement de la zone de recherche et pour l'instant le dispositif est toujours maintenu. Alors les enquêteurs recherchent tout ce qui peut être sujet et les éléments opportuns pour déterminer la présence ou non du corps de Delphine Jubillard sur les lieux indiqués par le mis en cause. On est sans personnel sur le terrain, donc un escadron de gendarmerie mobile. On a les éléments du groupement de gendarmerie départementale, la section de recherche de Toulouse. On a une lutte anti-drone avec 2 personnels et on a eu des équipes cynophiles qui sont venues nous appuyer.
Le lieutenant-colonel Stéphane Meblum. Et Cédric Jubilard s'est enferré dans un mensonge qui l'a empêché d'avouer avoir tué son épouse, a déclaré hier son avocat. La justice française va-t-elle connaître un changement historique? L'Assemblée nationale a approuvé hier l'extension de l'imprescriptibilité, jusque-là réservée aux crimes contre l'humanité, à ceux commis sur les mineurs. Mais la mesure pourrait être entachée d'inconstitutionnalité. Le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, a présenté sur son compte X le bilan de la revue inédite des plaintes concernant les infractions sexuelles sur mineurs. Je vous laisse l'écouter.
Le 8 juin dernier, j'ai réuni au ministère de la Justice, ici, les 36 procureurs généraux de France. Je leur ai demandé de revisiter l'intégralité des plaintes qui concernent les mineurs, soit des délits, soit des crimes, pour que nous puissions en effet faire le constat que tous les actes d'enquête avaient été bien faits. Ces plaintes ont donc été réétudiées en 5 semaines. Toutes les plaintes qui concernent les mineurs ont donc été revues et réexaminées. La conséquence, c'est que nous avons vu qu'il existe plus de 84 000 plaintes qui concernent les mineurs, des délits pour 60% d'entre eux, et des crimes, notamment des crimes sexuels contre les enfants. 30% de ces crimes et ces délits concernent des enfants qui sont encore enfants, qui sont encore mineurs au moment où je parle. Les autres, la majorité, les gens sont devenus adultes, les victimes sont devenues adultes ou les faits, malheureusement, peuvent être prescrits. J'ai demandé donc de réexaminer toutes ces plaintes et le travail admirable qui a été fait s'est conclu par d'énormes avancées. D'abord, c'est évidemment le nombre d'informations judiciaires, c'est-à-dire une enquête qui est donnée à un juge d'instruction, qui a explosé, plus de 300% d'informations judiciaires pour poursuivre, grâce à un juge d'instruction, à charge et à décharge, des crimes, et notamment des crimes sexuels pour les enfants. Ensuite, c'est plus de 600 personnes, plus de 600 auteurs présumés, 600 coupables peut-être, qui ont été mis en détention provisoire, c'est-à-dire en prison, parce que nous avons vu dans ces enquêtes qu'il y avait évidemment de quoi demander au juge de les mettre en prison en attendant la fin de l'enquête et en attendant la fin du procès. Autant d'enfants qui sont ainsi protégés, autant de victimes qui sont ainsi reconnues et entendues, et je vais désormais, chaque jour, recevoir tous les procureurs généraux, un par un, pour leur évoquer ressort par ressort, territoire par territoire, leurs enquêtes. Tous les deux mois, je les recevrai sur cette question des crimes et des délits contre les enfants.
Gérald Darmanin, ministre de la Justice. C'était votre rendez-vous d'information. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre écoute. Et je vous souhaite une excellente suite des programmes sur Radio Orient.